Vous écoutez
RMC. RMC, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC. Bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. On est là, on est bien, on va passer une magnifique émission en ce vendredi soir. Une émission rallongée aujourd'hui, on est là jusqu'à 21h parce que à partir de 19h en intégralité, Rennes, Paris Saint-Germain, on lance là, je m'embrouille là, 22e journée de championnat de Ligue 1 avec ce gros match qui arrive à partir de 19h. Mais avant, on a une heure de bons thèmes et de bons débats concoctés comme tous les jours par Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
C'est pas mal les 3h le vendredi, on pourrait le faire chaque vendredi, hein, pourquoi ouais, pas.
Très bonne idée. Très très bonne idée, on est avec Benoît Costil. Salut Benoît.
Non, il n'y a pas Benoît Costil.
Ah mais non, c'est Younes Belhanda.
Il y a Younes et Steve.
Ah mais non, mais oui.
Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il a cramé ce nuit.
Et après
mais...
tu veux faire 3 heures.
Oh là là, laisse tomber.
On est avec Steve Savidan. Salut Stevie.
Ça va les amis, en direct d'Abidjan. Je suis à Abidjan.
En direct pour les de Côte d'Ivoire, incroyable.
Ouais,
ah mais c'est pour ça.
Pour un stage pour les enfants, pour la Corsair Foot Academy. Là.
Et c'est pour ça que je pensais que c'était Benoît.
Ah bon, ouais. On l'embrasse, Franck Sylvestre.
Ouais.
Excellent.
On l'embrasse, c'est pas bah, bravo.
Beau. Je vous envoie un petit peu de soleil en même temps.
Merci. Nous, on t'envoie un peu d'analyse parce que t'es toujours à court en général. Allez, on est avec Younes Belhanda. Salut Younes.
Salut. Ouais, c'est Benoît. Ça va
Younes, ça va.
Ça va, merci.
Ouais, écoute,
vous allez bien.
Vous êtes transformé en gardien de but. Écoute, c'est
et toi, comment ça va alors au Qatar? Le championnat, tout ça.
Ça va, tranquille.
Il fait beau aussi.
Il fait très bon en ce moment.
Vous avez bien de la chance parce que nous, c'est une catastrophe.
Bah oui.
Bonne chance à vous.
On dirait l'OM.
Nous, on est bien.
Bon, sur Rotten sans flamme, de 3h avec dès 19h, donc Rennes-Paris Saint-Germain, la 22e journée, match en intégralité avec Pierre-Yves Leroux et David Filippo. On aura l'alerte compo d'ici quelques minutes pour les Rennais et pour les Parisiens. D'ailleurs, on parlera du PSG dès 18h30 avec ce soir le procès de Bradley Barcola, accusé de ne plus progresser dans l'efficacité. C'est son défaut principal, Bradley Barcola, qui se procure pourtant énormément d'occasions. On aura deux procureurs et un avocat. On vous attend au 32-16 pour rendre votre verdict. Et puis là, attention. Alors là, c'est vraiment le moment de jouer parce que vous pouvez gagner jusqu'à 30 000 euros sur RMC vendredi 13.
30 000.
30 000 euros en cash net d'impôts dans quelques jours sur votre compte en banque. La roue RMC est derrière Jérôme actuellement et c'est la dernière opportunité pour remporter 30 000 euros.
Et je vais te dire, je l'ai fait tourner déjà deux fois pour tout vous dire. Ouais. J'ai la main chaude aujourd'hui. Ouais.
Elle tourne même pas ta truc là.
Lève-toi, fais la tournée, on va entendre le bruit. Si, elle tourne vraiment. C'est la même roue que la roue telle.
Acteur studio.
Écoute.
Ouais.
Vous aurez les images sur les réseaux sociaux. La roue est là.
C'est la routine.
Elle tourne.
La routine, ouais.
Elle doit faire 3 tours. Tourne, et si là, elle s'arrête sur la case mystère,
c'est x13 là.
Ça voilà. Peut être
donc, déjà x13.
30 000 euros.
Donc x13, c'est combien?
Il faut envoyer 13 au 732-16. Et le gagnant.
Je suis tombé sur 13 000 déjà.
À 18h50. L'alerte sonore va tomber. Écoutez. Dès qu'elle retentira cette alerte, vous aurez 10 minutes pour envoyer 13 par SMS au 732-16, 18h03 sur RMC. Tout de suite, Steve Savidan donne des conseils à Pancho Abbandonado pour demain.
Bonjour.
Ah bonjour, bonsoir.
Moi, ce que je vais demander aux joueurs avec mon staff, c'est quoi?
Franchement, je vais vous dire, j'en ai aucun avis.
C'est qu'il y ait plus d'ambition dans le jeu, qu'il court plus, qu'ils aient la banane.
Je suis pas là pour donner mon avis. Je suis là pour faire mon boulot, comme une personne lambda qui va travailler chez Renault, chez Toyota ou n'importe qui.
On est tous responsables quand ça se passe mal. C'est pas que le staff ou que les joueurs. Non, c'est ensemble. On gagne ensemble, on perd ensemble.
Parce qu'à un moment donné, entre nuls, il y a bien des gens qui sont bons quand même.
J'ai connu des joueurs qui en grande difficulté, qui ont arrêté de porter le maillot, qui voulaient plus le porter par rapport à tellement de pression qu'ils avaient sur le terrain.
Tu deviens tellement parano, les arbitres, ils vont te ken.
Il y avait du sourire, il y avait envie de faire des efforts. En connaissant le groupe, il va avoir une réaction.
Quand tu es en confiance, il n'y a rien de pire que le doute.
C'est pas évident d'avoir une défaite aussi lourde contre un rival que tout le monde connaît.
Bah, c'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
On sait qu'on a fait des faux pas. Les joueurs le savent.
Ils sont tous restés individuellement dans leur qualité intrinsèque.
Et je le répète encore une fois, on est tous responsables et les joueurs aussi. Donc il faut qu'on ait de l'avant.
Wow.
On va.
C'est donc le match d'après pour l'Olympique de Marseille. La première rencontre sans Roberto De Zerbi demain après-midi face à Strasbourg, 17h sur RMC. Marseille 4e de Ligue 1 à 3 points du podium. Strasbourg est 7e. Pancho Abbandonado va diriger l'équipe en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur. Un seul absent dans le groupe, c'est Léo Balerdi, le capitaine, qui est victime d'une otite. On rappelle les objectifs de fin de saison, ils sont très clairs. Ça te fait rire, l'otite de Balerdi. Ouais, tu rigoles.
Bah quoi? Non, bah ouais, bah il avait peur au sifflet.
Elle est bienvenue, Lotti. Sifflet.
Avec Lotti, t'imagines les sifflets qu'il aurait pris? Non, écoute, c'était pas possible. C'est pas
Marseille
conseillé.
Vise une qualif en Ligue des Champions.
Mais je crois qu'elle part du pied aussi, Lotti.
Une victoire en Coupe de France.
Avant de l'incarner aussi.
Florent Germain nous rejoint, notre correspondant à Marseille. Salut Flo.
Salut Benoît. Salut à tous.
Flo, tu étais en conférence de presse aujourd'hui. Le message de Pancho Abbandonado, c'est on revient aux choses simples et on fait les efforts pour relancer une dynamique.
Voilà, effectivement, la semaine a été agitée. Donc, tournez la page Roberto De Zerbi. Mais lors de cette première prise de parole de Jacques Abbandonado, d'ailleurs, il n'y avait pas de joueur en conférence de presse. Hein, c'est un peu une volonté de protéger les Olympiens, peut-être, au terme de cette semaine compliquée. Bah, son message, le premier, écoutez, c'était tous responsables du départ du coach italien.
C'est un coach pour moi merveilleux, avec un grand cœur. Il m'a accepté dans son cercle très fermé d'adjoint, où j'avais une position centrale avec lui, avec un staff magnifique, un professionnel dans l'âme, et je ne peux que le remercier. Ensuite, qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que je vais modifier? Vous le verrez demain. On sait qu'on rentrera sur le terrain conquérant, parce qu'il faut rentrer sur le terrain conquérant, et surtout avec l'envie de se rattraper des faux pas qu'on a fait, des faux pas qu'on a fait contre Paris. On est tous revanchards, et chacun a sa responsabilité. Moi le premier, et ensuite les joueurs.
Alors ça commence par ce match contre Strasbourg et il y a eu un rappel aussi des objectifs. Voilà, il faut pas noircir le tableau, dit Jacques Abbandonado. Il y a encore de belles choses à jouer en cette fin de saison.
Le championnat n'est pas fini. On est 4 points du podium. On a un quart de finale de Coupe de France à faire, en espérant aller au bout et la remporter. C'est l'objectif du club, mais il faut réagir rapidement. Il faut qu'on se pose bien la question. On fait que du foot, mais quand on dit on fait du foot, il faut se remettre en question tous les jours. Et on sait qu'on a fait des faux pas. On le regrette. Les joueurs le savent, ce qu'ils ont fait. Ils savent leur comportement qu'ils ont eu pendant ces derniers matchs. Ils savent qu'ils doivent avoir une réponse automatiquement. Mais moi, ce que je vais demander aux joueurs avec mon staff, c'est quoi? C'est qu'ils aient plus d'ambition dans le jeu, qu'ils courent plus, qu'ils aient la banane, qu'ils aillent vers l'avant, qui prennent du plaisir, et ça on doit le sentir de suite face à Strasbourg.
Et comme tu l'as dit Benoît, il a aussi dit on va faire des choses simples désormais, un défenseur en défense, moins de vidéos, la tête un peu plus fraîche. Faut-il y voir un message à son prédécesseur? En tout cas, il veut revenir à des bases plus concrètes et solides pour le match de demain.
Merci Flo, reste avec nous. La une de Rotten sans flamme, est-ce que la fin de saison de l'OM dépend uniquement des joueurs? 32-16 pour participer avec nous. Est-ce que ce sont eux qui ont la clé pour toi Jérôme?
Bah uniquement non, parce que sinon dans toutes nos analyses, on n'aurait pas partagé les responsables de cet échec de cette année pour l'instant, parce que moi je veux bien qu'on parle, et à juste titre, hein, ils sont encore dans la course pour finir troisième, mais c'était pas l'objectif du début de saison en championnat. Ils sont encore dans la course pour gagner la Coupe de France, mais c'était pas l'objectif prioritaire, contrairement à aujourd'hui. Donc ils sont largués en championnat et éliminés en Ligue des Champions. Donc c'est un échec, on l'a dit.
Largué, c'est un peu fort en championnat. C'est un 3 points du podium.
Encore dans la course au.
Mais les gars, vous, tu dis Ligue des Champions. Non mais vous déconnez quand même. Largué, ils voulaient faire aussi bien que l'année dernière, deuxième, voire se rapprocher du PSG.
Oui, mais
ils sont à 10 points d'un club comme Lens.
Oui.
On va pas te dire les différences en termes de budget et de dynamique. Mais bon, je pense que rien que ça déjà, et à 3 points de Lyon qui était au fond du gouffre. Mais bon, peu importe. Je parle même pas de ça. Tu vois, ça c'est passé, ses côtés, c'est l'OM de De Zerbi. Maintenant, c'est l'OM d'Abbandonado pour l'instant. Donc moi, je veux bien qu'on dise ça appartient aux joueurs. Bien sûr que on est passé par là. Younes y est encore sur le terrain. Bien sûr que nous, on est responsables. Des performances, quand tu rentres sur un terrain, c'est pour être le meilleur individuellement et après collectivement de dégager une force collective, ce que n'a pas réussi à faire l'Olympique de Marseille sur la durée, en étant régulier et même un niveau moyen assez élevé. Ça n'a jamais été le cas. Quand l'OM est pas bon, ils sont vraiment pas bons, et quand l'OM est bon, bah ils sont bons, ils arrivent à faire des résultats. Mais sauf que quand le niveau s'élève, et je pense que le match de Strasbourg, c'est un match de bon niveau, parce que Strasbourg est une équipe de qualité. C'est pas parce qu'ils ont perdu la semaine dernière au Havre que ça y est, Strasbourg est bidon. Strasbourg est une belle équipe, on l'a vu dernièrement contre le Paris Saint-Germain avec cette défaite frustrante. Donc là, ils ont une équipe qui est une équipe de Coupe d'Europe, Strasbourg, face à eux. Donc ouais, il va falloir que l'OM soit au niveau individuel, déjà les joueurs bien meilleurs qu'ils l'ont été dernièrement ou sur les derniers mois ou sur les 6 premiers mois. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, collectivement, et ça appartient à l'entraîneur, c'est pour ça que les joueurs, je veux bien individuellement qu'ils soient meilleurs, mais après ton pote à côté, c'est un sport collectif. C'est pas parce que toi tu vas être meilleur individuellement que collectivement tu vas apporter un plus à ton équipe. Mais ça part de la stratégie de l'entraîneur. Donc comme l'a dit Flo, quand t'entends Abbandonado parler, bien sûr qu'il remercie De Zerbi, il est dithyrambique sur De Zerbi, l'exigence, le ceci, le cela, sauf que il te dit des choses qui font comprendre que voilà, il faut qu'il soit conquérant, il faut leur redonner de confiance, il faut peut-être faire des choses plus simples.
Pourquoi il le remercie? Il le remercie pourquoi en fait?
Bah, le remercie. Je sais pas, par rapport à ce qui est...
Il a quitté le navire au milieu de la saison.
Younes, c'est humain. T'as bossé avec quelqu'un 18 mois.
T'as rien à remercier.
Non, mais je pense. Younes, je pense.
Le navire comme ça, en plein milieu de la saison, alors qu'il n'y a pas de pression ni des supporters, ni de ta direction. T'as un peu des articles qui passent à droite à gauche, qui le critiquent un peu, et toi tu quittes le navire.
Ouais, c'est...
Moi ça j'arrive pas à comprendre. Ça.
Non mais ça,
tu digères pas le départ de De Zerbi.
Bah, moi ça j'arrive pas. Moi ça De Zerbi là, ce qu'il a fait c'est n'importe quoi. Il a l'appui de son directeur sportif, il a l'appui de son président. Il a pas connu les années turbulentes à Marseille où les supporters descendaient, ou criaient, ou sifflaient, ou qui venaient à la commanderie. Et tu te mets le feu tout seul. Moi je comprends pas. Il y a deux semaines c'était encore en titre.
Younes, ça fait plusieurs
pour
fois
la Coupe de France, pour la Ligue des Champions. Oui. Mais c'est lui qui se met le feu tout seul.
Ouais, mais c'est pas la première fois.
Il se met le feu tout seul.
Tu regardes déjà rien que dans cette saison et l'année dernière, quand il disait si c'est moi le problème, je m'en vais. Dites-le moi, je m'en vais. Bah en fait là, on lui a même pas dit c'est toi le problème, il est parti. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Younes. Là, il a mis l'OM dans la merde.
Bah, bien sûr.
Parce que là, il a mis dans la merde. Jacques, c'est que peut-être.
Mais si, parce que Jacques, Abardonado, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il dit on va revenir à des choses simples. On va arrêter la vidéo. Non mais attends, c'est là on parle du très haut niveau.
Oui, mais il parle de cette semaine,
ça,
Steve.
Il a dit, j'ai mis un petit peu moins de vidéo cette semaine. Ben, s'il le remercie, c'est parce qu'il a quand même compté sur lui pendant cette étape d'un an et demi.
Quand il dit on va revenir à des choses simples.
Et que c'était pas évident.
On va revenir à des choses simples.
Avec 7 ou 8 adjoints.
Mais ça veut rien dire,
c'est pas facile. Non mais
il est content d'avoir pu travailler avec lui.
Mais Steve,
on peut le comprendre.
Non mais Flo a raison. Moi je comprends Abardonado qui remercie De Zerbi et comme tu l'as dit Flo, il vient avec 9. Younes, il vient avec 9 adjoints. Donc Abardonado, je pense que lui, quand il débarque De Zerbi il y a 18 mois avec 9 adjoints, il se dit il va me couper la tête, c'est obligé. Et à l'arrivée, il a eu un rôle important et c'est ce qu'il il explique. C'était, il s'occupait des coups de pied arrêtés. Je pense que dans le vestiaire, c'est un mec. Non, mais c'est un mec, c'est un joueur encore. Tu le sens. Donc le rapport, l'adjoint, souvent les adjoints, et on l'a ressenti aussi, ils ont cette proximité avec les joueurs. Il n'a pas d'entraîneur.
Des relations
donc,
humaines aussi,
lui, il sait exactement. C'est pour ça qu'il tient. Il le remercie par rapport à ça.
Et politiquement, qu'il le remercie.
Oui, mais sauf que. Le
cœur de l'avoir laissé comme ça partir en plein milieu de.
Non, mais je suis d'accord.
T'es pas la ramasse, hein. Parce que tu as Lens qui superforme. Et t'es sur le bilan un peu de l'année dernière.
Écoute,
l'objectif, quand Bennacia est arrivé, l'objectif, c'est d'être qualifié en Ligue des Champions les 3 années consécutives.
Younes, s'il est parti, c'est que tout le monde sentait, et même De Zerbi le premier, que les joueurs, ils adhéraient plus à ce qu'ils voulaient mettre en place. Lui et Benatia, hein, parce que Benatia a posé sa démission, parce
mais
que
justement,
c'est trop exigeant et tout ça. Et c'est pour ça, moi, je vous donne la parole et je vous pose même la question, Younes et
Steve. Quand tu es dans un grand club, t'as besoin d'exigence.
Mais regarde,
si non, l'OM se dit grand club, Benatia, il est venu pour mettre l'exigence. Donc, j'ai entendu dire que il y a des retards, les joueurs n'étaient pas contents, qu'on leur mettait la pression. Mais si tu veux être un grand club, Benatia a joué dans les grands clubs, que ce soit à la Juventus, au Bayern Munich. Il a côtoyé les joueurs de très haut niveau, et lui, il a côtoyé les instances aussi de très haut niveau. Donc, il sait ce que c'est. Donc, il a voulu ramener son expérience. Mais si les joueurs n'adhèrent pas à ce truc, c'est ça. S'ils n'adhèrent pas, ils ne peuvent pas être dans un grand club.
Ils ont pas dire
que l'OM est un grand club.
Non, mais ça, on est d'accord, Younes. C'est pas une grande équipe aujourd'hui. Alors peut-être dans le futur, et je leur souhaite, en effet. Mais derrière, en effet, quand tu parles d'exigence, tu as raison. Je pense que Mehdi, il a été très vigilant à des détails, des détails qui, au haut niveau, te font gagner et te font performer et progresser. Le problème, c'est que le relais à tous ces détails-là, c'est quand même l'entraîneur. Et l'entraîneur, quand il fait des choses, il en fait qu'à sa tête, qui te change des mecs de poste, ce que dit à plus ou moins Abardonado par rapport au discours de Flo aujourd'hui. Moi, je le comprends. C'est que des choses simples, c'est déjà une composition d'équipe que tout le monde, alors bien sûr qu'il peut avoir ses choix, mais tout le monde imagine. Et jouer avec une défense à 4, la vérité, j'ai pas tous mes diplômes
avec
d'entraîneur,
tu peux pas.
Je suis pas entraîneur de l'OM, mais tu peux mettre 4 défenseurs quand même. Alors en plus, la facilité, c'est que Balerdi, ton capitaine
habituel,
il est pas là. Et je pense qu'en effet, tout le monde l'avait vu avant, Balerdi en premier lieu, il avait rien à faire sur un terrain de foot, du moins en tant que titulaire à l'Olympique de Marseille.
À l'Olympique de Marseille.
Ouais, alors, à l'Olympique de Marseille. Donc là, en donnant un truc simple, peut-être qu'en effet, il va redonner plus ou moins confiance à certains joueurs individuellement et collectivement, ils vont être plus denses.
Quand ils ont fait les recrutements, ils ont pris Medina à guerre. Et Pavard pour jouer à 3, je pense.
Ça, c'est possible. Reprend le débat dans un instant sur les joueurs. Est-ce que ce sont eux qui ont la clé de la fin de saison? Juste petit détour par Rennes, parce que les compositions sont tombées pour le Rennes-PSG qui nous attend à 19h à suivre dans Rotten sans flamme avec Pierre-Yves Leroux et David Filippo. Salut à vous deux.
Bonsoir à tous, messieurs.
Bonsoir tout le monde.
Et Paris sort la grosse équipe ce soir.
Il y a deux Nantes et à Rennes. Eh ben, c'est
on l'attendait.
Ils sont arrivés masqués.
En rouge et noir.
Ne vous inquiétez pas.
Safonov dans les buts. Une défense à 4 avec Hakimi et Mendes. Sur les côtés, Pacho, Zabarni dans l'axe. Vitinha devant cette défense. Neves, Zahir Emery. Kangingli est sur le banc. On retrouve Doué à gauche, Kvaratskhelia à droite et Dembélé, ballon d'or, sur la pelouse du Roazhon Park. Donc effectivement, c'est la grosse équipe. On connaît hein, les absences de Giantou, de Mayulu et de Ruiz qui sont blessés à quelques jours de ce match de Coupe d'Europe. Eh bien, on est dans le rythme du côté parisien.
La compo rennaise rapidement, David.
Un 4-3-3 avec des absents Aït Boudlal, Jacquet et Frankowski. Un 4-3-3, Samba qui reprend sa place dans la cage. Défenseur droit, a priori, ça sera Quentin Merlin, alors qu'il est plutôt gaucher. Brassier, Rouault dans l'axe, Najida côté gauche. Au milieu du terrain, Rongier, Camara et Szymanski. Sur le côté gauche, Altamari, Le Pol dans l'axe et Nordin sur le côté droit.
Merci les gars. On parlera de Rennes à partir de 18h45 et ensuite le match à suivre en intégralité dans Rotten sans flamme. On rappelle le débat, est-ce que la fin de saison dépend uniquement des joueurs? Qu'est-ce que t'en penses toi, Steve Savidan, alors?
Moi, je pense que bon, déjà, c'était mal parti. Je sais pas, il y a un truc qui allait pas, de toute façon, une sorte d'inconfort qui allait avec Dezerbi depuis le début de la saison, avec des choix, avec des départs de joueurs. Et puis, bah, la saison est partie quand même vraiment pas mal, avec des résultats. On se disait, ils arrivaient quand même à tirer des résultats. Ils changeaient souvent de composition d'équipe. Beaucoup de systèmes de jeu. On se dit, bah tiens, peut-être qu'il va trouver un peu, il va amener sur cette deuxième partie de saison. Un effectif complet, en tout cas un 11 de départ serein, quoi. Et je sais pas pourquoi ça part en couille comme à chaque fois. Ils arrivent à se mettre le feu. Younes, il l'a dit tout à l'heure, honnêtement, s'ils continuaient comme ça, ils vont peut-être être qualifiés pour la Ligue des Champions. Ils ont un coup à faire sur la Coupe de France. Franchement, mais pourquoi vous me prenez la tête, en fait?
Les gars, vous pouvez pas.
Et après,
pas.
Moi, tu. Non, attends, je reviens sur un truc.
Vous minimisez la Ligue des Champions.
Non, la claque reçue,
et puis surtout l'humiliation contre le PSG. Non, mais je parle de Younes et Steve. Les gars, franchement.
Non, attends, je vais continuer un truc sur Jérôme.
Il perd un match sur 3.
Et après, on dit, au final, la responsabilité, ça va être, la fin de saison, ça va être pour les joueurs. Jérôme l'a dit un peu tout à l'heure. C'est collectif. Mais comme le capitaine, là, le capitaine du bateau, a pratiquement fait couler le bateau et a quitté le navire avant tout le monde, avant qu'il coule, ça fout un peu la panique. Et quand Jacques parle tout à l'heure de simplicité, de retour à la simplicité, je comprends pas, moi, là. Dans le coaching, je comprends pas le retour à la simplicité. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est compliqué?
Qu'est-ce qui a été compliqué?
Après, Pancho Abbandonado, je pense qu'il sera là pour un match. Il sera pas
pour
un
ou deux. C'est très clair ce qu'il veut dire, comme il l'a fait.
Vas-y, Flo.
C'est très clair ce qu'il veut dire dans revenir à de la simplicité. C'est, Murillo est parti. On va éviter de demander à un Pavard d'être ailier droit, un Murillo d'être ailier gauche.
Mais pourquoi? Parce que c'est limpide, à un moment donné, ce qu'il a dit, c'est limpide, on va revenir à des choses simples parce que les joueurs ont mal à la tête, tu vas demander un latéral droit,
donc
comme ça marchait pas dans le système dans lequel il faisait évoluer Dezerbi, c'est-à-dire de déborder et tout ça, ça marchait pas. Non mais attends, le joueur aussi, il était peut-être pas à niveau aussi, petit Pavard.
En fait la vraie question, c'est est-ce que l'effectif il est bon,
tu vas le brider. Moi, je reviens sur ce que dit Younes. Est-ce que l'effectif est au niveau de se qualifier jusqu'à la fin de la saison en Ligue des Champions? Est-ce qu'il est meilleur que Lyon? Il est meilleur que Lyon, l'effectif, là?
Au début de l'année, oui. Après, cette équipe est inférieure aujourd'hui.
Ils sont tous bons individuellement. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Tu vas dire pour le week-end prochain, tu vas dire bon les gars, maintenant on va jouer simple, on va mettre un 4-4-2 à plat, et puis l'excentré droit, latéral droit, tu débordes pas. Appareil à gauche, tu débordes pas. Donc en fait, t'as deux phases.
Mais c'est pas ça, ce que dit Flo, Steve, tu fais exprès, franchement.
Et, il a juste dit, on va remettre des choses simples pour laver les têtes.
Je vais te prendre, j'ai la conscience. Les choses simples, c'est, tu prends le petit Wea en début d'année. Le petit Wea, franchement, je vais te dire, je suis pas fan de joueur, mais il fait sa saison. Il fait sa saison, d'accord? Et le pauvre, je dis le pauvre parce que un coup il joue couloir gauche, un coup il joue ailier gauche, un coup il joue ailier droit, un coup il joue latéral droit, après il joue à 5 dans le couloir droit, dans le couloir gauche. Non mais je suis désolé, mais au bout d'un moment tu as besoin de te stabiliser. Le mec, c'est peut-être une des seules satisfactions du recrutement. Et tu lui fais changer de poste à tous les matchs. Tu sais jamais.
Et d'un match à l'autre.
Mais, et d'un match à l'autre. Lui mets en plus des coéquipiers qui sont différents à côté. Ouais. Parce que si tu gardes encore le même 11 et que tu changes, parce que ça nous est arrivé aussi. Mais là, et c'est pas possible. Là, regarde, les dingueries, plus ou moins. Le match à Marseille, au Parc des Princes, tu fais jouer les deux recrues hivernales qui viennent d'arriver. Timber, ça faisait 15 jours qu'il était là. Un gamin de 18 ans au Parc des Princes contre un gros PSG dans un poste où t'es obligé de plus ou moins de faire changer Greenwood de poste parce que les deux se ressemblent dans leur jeu. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. La vérité, c'est que Abardonado, je pense. Alors après, le contrat qu'ils ont avec Nwaneri, je sais pas ce qu'il y a, si t'es obligé de le faire jouer
Calcul quand même.
Ah, mais j'espère.
Là, il y a des ambitions. Oui, mais
on avait l'impression que c'était ça au départ.
Ouais, enfin, là, il l'a fait jouer au parc parce
que de toute façon, c'était le maestro. C'est le mec qui a inventé des choses.
Donc c'est Dezerbi qui était pas au niveau.
Et après, moi, je pense que Dezerbi a fait des choses qui ont fait que ce groupe a explosé, qu'il y a des joueurs qui adhéraient et beaucoup de joueurs qui n'adhéraient plus à ce qu'ils voulaient mettre en place. Je pense que les vidéos, quand ils parlent de vidéos, ça veut pas dire d'arrêter les vidéos et que c'est de la faute des vidéos. Mais moi, je suis tombé sur des coachs. Et en l'exemple, Vaïdal Ilozi, qui nous faisait des vidéos, les gars. Une heure avant les matchs, une heure le matin, une heure et demie l'après-midi, t'arrivais, t'avais plus de jus sur le terrain. Et tu disais, mais ces vidéos, mais tu sais quoi, t'avais envie de les niquer, ces vidéos. Eh ben, écoute, je pense qu'un mec comme ça, qui se prend pour football manager, il est très bon football manager de Serbie.
C'est même pas que ça, Jérôme. C'est aussi la pression qu'il met et le stress qui
en plus, plein d'émotions parfois qui est transmis.
C'est trop plein d'émotions. On a entendu que même après les matchs, il se prenait pour un supporter. Je sais pas qui j'ai entendu dire ça, qui prenait à cœur comme un supporter même après un match qu'il perdait et tout. Tu vois, ce truc qui transpose aux joueurs, les joueurs le sentent.
Il avait cette habitude de se renfermer, de bouder, de vivre très mal, alors qu'il fallait prendre du recul.
Et on l'avait vu après Bruges, quand il s'était isolé à Clairefontaine.
Tu dois ramener de la sérénité dans ton groupe, surtout quand ça va mal.
Accueillons un supporter de l'OM.
C'est une analyse simple. Il faut revenir à des analyses simples.
Exactement.
Allez, Sébastien, supporter de l'OM, est au 32-16 avec nous, Jérôme.
Salut, Seb.
Ouais. Salut à tous.
Bienvenue, Sébastien. Alors,
franchement, je vous ai écouté. J'ai tellement patienté que je ne sais même plus par où commencer tellement que c'est énorme.
Et est-ce que la fin de saison dépend des joueurs pour toi?
Bon, le seul truc que je veux vous dire, c'est qu'il y a Steve, Younes et aussi Jérôme. Vous avez tous un peu dit de ce que je voulais dire du vrai. C'est-à-dire que pour moi, bien sûr, que c'est pas la faute totalement des joueurs. Ça dépend que des joueurs. Parce qu'on pourrait dire, voilà, Dezerbi, on pourrait lui reprocher qu'il a mis toujours Balerdi, il change toujours de composition. Il y a toujours aussi, pour moi, les supporters, ils mettent aussi une très grosse pression. C'est ce qui fait de notre club qu'il est différent. Parce qu'on est toujours en train de mettre des banderoles, ça me gonfle. On dirait qu'on a des jeunes supporters qui se prennent sur FIFA, il faut changer deux joueurs et c'est fini. En fait, il faut les laisser un peu travailler dans la sérénité, malgré qu'on n'a pas gagné de trophée depuis longtemps. Parce qu'on sait très bien que le Paris Saint-Germain, ils ne sont plus dans notre catégorie depuis des années, et que malheureusement, ils raflent tous les titres nationaux. Donc, s'ils n'auraient pas été rachetés, on aurait déjà peut-être gagné une Coupe de France ou un championnat. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis un peu triste d'avoir perdu Dezerbi, parce qu'on avait un projet sur 3 ans. Bien sûr qu'on n'a pas tout perdu. On est encore 4e, on a encore les clés en main. Mais le problème, c'est qu'il va falloir qu'on trouve un entraîneur qu'il est capable d'avoir du sang-froid et surtout de la sérénité pour expliquer à nos joueurs qu'on doit jouer ensemble comme le font Lens, parce qu'on a une individualité qui est plus forte que les Lensois, mais eux, ils savent jouer collectif. Et nous, on ne le sait pas. on bloque Greenwood, on bloque.
Ouais, mais Seb, Sébastien, moi je comprends, hein, je partage ta vision des choses là-dessus, sur ce que doit amener un entraîneur avec une équipe de haut niveau, avec des moyens comme l'Olympique de Marseille. Le problème, c'est que le mal, il est profond. L'entraîneur, c'est pour ça que pour moi, les joueurs sont, oui, ils ont leur part de responsabilité. L'entraîneur et ce qu'ils ont mis en place. Le problème, c'est que ça fait 8 mois que c'est en place comme ça, et c'est pas d'un coup de baguette magique que tu vas tout changer. Mmh. Moi, ce collectif, il y a des joueurs qui sont certainement pas au niveau qui doivent être. Après, il y en a d'autres aussi. Malheureusement, ils ont atteint le plafond de verre, et que jouer à Marseille, ça représente une pression différente. Et que le match de demain, par exemple, moi, je voulais parler de ça. Mm-hmm. À Bardonado ou pas, ou De Zerbi ou un autre entraîneur qui va arriver dans les prochains jours. Mais je peux te dire qu'il faut avoir des grosses couronnes demain pour les joueurs, parce que
les joueurs aussi sont fautifs aussi, parce que quand je me rappelle le trophée des champions, ils sont à 1-1. Et le but qu'ils prennent à la fin.
Ah, bien sûr.
C'est pas aussi De Zerbi, tu vois.
Enfin, non,
les joueurs,
c'est sûr.
Sont très fautifs.
C'est sûr. Mais,
à Toulouse, ou sur une touche, tu prends un but.
Mais bien sûr.
Mais Younes, mentalement, ces matchs-là.
Et je pense que. Ils sont très fautifs aussi. Je mets pas que sur De Zerbi. Moi, je vise De Zerbi parce qu'il a quitté le navire.
Ouais.
Mais les joueurs sont en grande partie.
Bien sûr. Mais
fautifs.
Mais encore une fois, ce qu'il faut pas minimiser, c'est l'aspect mental aussi du joueur de haut niveau. Et que la confiance, elle revient pas comme ça. Donc demain, ça sera vraiment pas facile.
Quel accueil pour les Marseillais demain au Vélodrome? On a des indices?
Ce sera particulier parce que on rappelle déjà que le bas du virage sud est à huis clos, la partie des ultras. Le virage nord pourrait faire une petite grève en début de match, en laissant des tribunes vides, en laissant des banderoles surtout. Mmh. Donc, y aura, oui, des messages de protestation pour marquer le coup par rapport à l'humiliation quand même de dimanche dernier au Parc des Princes. Donc, faudra surveiller ce début de rencontre. C'est toujours pareil, si Strasbourg rentre bien dans son match et que ils ouvrent le score, ce qui peut arriver, ou que Marseille a du mal dans le jeu, c'est vrai que le Vélodrome peut siffler. Mais à part ça, on a quand même un stade bien rempli malgré le bas du virage sud, malheureusement, qui est à huis clos pour fumigène.
Merci Flo.
Okay. Ah, c'est maintenant.
La dernière alerte en ce vendredi 13,
et on
pour
vous
remporter
10 minutes aujourd'hui.
Jusqu'à 30 000 euros en cash net d'impôt dans quelques jours sur votre compte en banque. On peut en faire des choses avec 30 000 euros. Il est 18h27, vous avez jusqu'à 18h37. Et ensuite, allez, le gagnant sera avec nous à 18h50 pour faire tourner la roue RMC.
J'ai la main chaude.
Envoyez 13 par SMS au 732-16. Un grand merci à Florent Germain. À demain pour le match.
Ciao.
Marseille-Strasbourg à 17h sur RMC. Dans un instant, on bascule sur ce Rennes-Paris-Saint-Germain. On va ouvrir le procès de Bradley Barcola.
Ah, ça y est, il y en a qui veulent le démonter.
Ne plus progresser dans l'efficacité. À tout de suite sur RMC.
RMC, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC, on est là, on est bien dans la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme qui débute maintenant avec Benoît Boutron. Eh oui, Benoît Boutron. Avec Steve Safian. Et avec Younes Belhanda.
On est très long.
Tu t'appelles bien Benoît.
La semaine est longue, hein.
Tu t'appelles comment?
Oui, je m'appelle Benoît.
Bon, bah voilà, bah écoute, t'as le même Benoît, prénom.
Ouais, d'accord. T'en viens pas, on a compris.
Trois heures en plus.
C'est pour ça, en fait, ça me travaille trop. On est à 18h45.
Ah oui. On sera à Rennes, au Roazhon Park. Ah oui. Ce soir, c'est Rennes PSG en intégralité dans Rotten sans flamme. On va rappeler les compos d'ailleurs avec Pierre-Yves Leroux et David Philippot, avec la grosse armada sortie côté parisien, Pierre-Yves. Hein.
Ouais, on va essayer d'être plus précis que Jérôme. Safonov dans les buts. Hakimi, Zabarni, Pacho, Mendes en défense, Vitinha devant cette défense, Neves et Zaïre Emery devant Vitinha, et puis sur les côtés, Kvaratskhelia, Doué à gauche, Dembélé dans la. Et du côté de Rennes, j'ai dit 4-3-3, peut-être un 4-2-3-1 finalement. Samba dans la cage, Merlin côté droit, Brassier Rouault dans l'axe, Najida côté gauche, Rongier Camara devant la défense, Simanski en meneur de jeu, Altamari à gauche, Nordin à droite et Le Pol dans l'axe.
Merci les gars, on parle de Rennes dans 10 minutes, mais tout de suite c'est donc Bradley Barcola qui nous intéresse.
RMC, Roten sans flamme.
Même notre centre d'entraînement, il est meilleur qu'ici. Est-ce que c'est normal? On est Galatasaray. Normalement, les dirigeants de Galatasaray, ils doivent trouver une solution. Ils savent que nous, on joue au football. On est des gens qui aiment faire des passes, redoubler les passes. C'est pas normal. Ils doivent venir, ils doivent engager même le meilleur jardinier du monde. Tu dois le week-end, on doit jouer dans des bons terrains.
Le procès de Roten sans flamme.
Le gars de Younes, c'était trop bon ça.
J'étais chaud, ouais.
T'étais chaud. Parlons donc de Barcola qui va disputer bientôt le 200e match professionnel de sa carrière. Ce sera le 199e ce soir à Rennes. C'est le joueur offensif le plus utilisé de la saison par Luis Enrique. Il a bénéficié des blessures de ses coéquipiers. Barcola, cette saison, c'est 30 matchs, toutes compétitions confondues. 7 buts et 5 passes décisives, des qualités qu'on connaît bien, une capacité à faire la différence. Mais un an sans marquer en Ligue des Champions, le dernier but en Ligue des Champions pour Barcola, c'était le 19 février 2025 lors du 7-0 face à Brest. En équipe de France, c'est 3 buts seulement, 18 sélections. Il a 23 ans, il est en fin de contrat en juin 2028 et on ouvre son procès ce soir. Barcola, accusé de ne plus progresser dans l'efficacité avec deux procureurs, Younes Belhanda et Steve Savidan. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
L'avocat de Bradley Barcola, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est Jeff, supporter parisien, qui va rendre son verdict au 32-16. Salut Jeff.
Salut à tous.
Salut Jeff.
Merci de m'avoir invité, c'est super cool.
Eh ben écoute, tu es le bienvenu, on a hâte que tu rendes ton verdict.
Gagner.
Ne suis pas la pression de Jérôme. Allons-y donc sur ce procès, Steve. De quoi tu accuses exactement Barcola? Est-ce que tu penses qu'il peut encore progresser dans ce secteur de jeu alors?
Si, tu l'accuses, t'assumes, ou sinon t'es avec moi.
Bon d'accord, allez, j'assume. Bah tu vois, moi, à 23 ans, je me dis qu'un joueur ailier offensif qui est censé quand même exploser toutes les défenses devraient afficher quand même beaucoup plus de sérénité, surtout dans le dernier geste. Et je trouve qu'il se procure énormément d'occasions. Il est déstabilisant au possible sur son côté. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est en plus élégant. Mais par contre, il n'apporte pas ce geste décisif qui fait gagner des matchs. Et je trouve que sur cette première partie de saison, il a été trop, je vais pas dire timide, mais presque dans le dernier geste. Et on l'a vu encore sur ces derniers matchs, là où il doit justement casser le but. Eh ben non, il pêche encore dans ce dernier geste. Et je remarque même encore une stat. Il est moins décisif aussi sur l'avant-dernier geste. C'est-à-dire sur les passes décisives. Je le trouve moins précis sur les passes décisives, sur presque le cadeau donné au buteur. Après, je me dis, est-ce qu'il peut encore progresser? Bien sûr qu'il peut encore progresser, mais il va pas falloir qu'il tarde, parce que je trouve que déjà, ça fait un an qu'il n'est pas trop décisif dans les très grosses soirées européennes, parce que c'est vraiment là où on regarde quand même le PSG, et là, c'est là où on les attend de plus en plus. Eh ben, Dembélé ne peut pas toujours tout faire tout seul. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait aussi des joueurs qui soient peut-être à un très haut niveau, surtout pour marquer des buts, pour compenser justement des fois un Dembélé un peu moins décisif ou un autre joueur. Donc moi je trouve qu'il peut beaucoup progresser, mais il faut pas qu'il perde de temps. On est déjà dans une bonne année bien passée et il avait beaucoup d'occasions quand même.
Younes, qu'est-ce que t'en penses toi?
Et c'est vrai qu'il a eu une chance en début de saison où Dembélé était blessé, Doué était blessé, quand Gigli qui était
il a joué,
aussi
hein.
Au top.
Ah, il joue beaucoup bien sûr.
Il a joué des matchs. Mmh. C'est un international français. Il a 23 ans, mais c'est l'international français. En début de saison, on attendait beaucoup de lui, mais il pêche trop. Il a cette nonchalance où, bien sûr qu'il a des facilités techniques, physiques, où il va très vite, mais il a cette nonchalance qui fait que ça lui fait rater des choses. Il n'est pas tueur, comme les Dembélé ou Doué. Et on le voit ce soir, il est sur le banc. Et je pense que ça va arriver encore plus au fur et à mesure de la saison qui va passer, parce que Doué est un tueur, Dembélé est un tueur, Kravac a moins de qualité technique, physique, athlétique que lui, est un tueur aussi. Et Kangigli, avec l'entrée qu'il a fait contre Marseille, je pense qu'il va être rétrogradé. Alors bien sûr, il a 23 ans, il peut encore bouger les choses et faire bouger les choses de son côté, mais je trouve qu'il a cette nonchalance qu'ont pas les trois offensifs à sa place. C'est des tueurs au devant.
C'est vrai que
c'est un tueur. Dembélé, tu vois qu'il a faim, qu'il a envie de marquer. Kravac, tu vois qu'il cravache et il veut marquer aussi. Ouais, ben bien sûr. Ramos, à chaque fois qu'il rentre, c'est un tueur et c'est un buteur. Il est né pour ça. Mais Barcola, je le sens, cette nonchalance, j'aime pas trop.
Bon.
Il est super technique, il est élégant à voir. Mais quand tu vois en 8 matchs, 0 but en Ligue des Champions, 7 buts en Ligue 1, c'est honorable. Mais il est il pas très décisif, hein, pas décisif. Ouais, il a beaucoup d'occasions, il a beaucoup d'occasions.
Et parlons de la défense, Maître Roten, alors.
Non, mais après, moi, je comprends, hein, si on regarde juste les statistiques, apparemment, Younes et Steve sont très, très informés là-dessus, sur les datas.
Ils m'ont bossé,
pas, ils m'ont pas sorti les expected goals aussi, donc ça aurait été bien qu'ils me le disent, parce que j'attendais qu'ils me sortent cette phrase-là. Après, moi, j'ai l'œil. Moi, j'ai l'œil, j'ai une vision du jeu bien développée avant.
Les gauchers, ils sont à part, c'est ça, les gauchers sont à part.
En plus. Donc, non, mais les matchs, on les voit. Ce que je veux vous dire, c'est que, bien sûr que Bradley, il manque d'efficacité, mais c'est pas que depuis cette année. Je trouve que depuis le début de sa carrière, il a progressé énormément sur plein de points. Que c'est sa quatrième saison pleine au très haut niveau. Donc, t'imagines entre le gamin qu'il était quand il a débuté à Lyon, le au bout d'un an, le prix du transfert à Paris, s'acclimater comme il l'a fait avec en progressant, en prenant aussi conseil sur un entraîneur qui lui a beaucoup apporté, Luis Enrique, dans son jeu, dans ses appels de balles, dans sa capacité aussi par moment à être meilleur techniquement pour pas perdre le ballon bêtement, ce qui était son cas quand il est arrivé. Je trouve que là-dessus, il a énormément progressé dans ses appels de balles. Aujourd'hui, on le voit au Parc des Princes, nous, Benoît, on est
Jérôme, on parle de la finition.
Je pense qu'en effet, il a.
Si tu rates des occasions et que tu fais pas de passe,
mais
dans les buts, les gars,
vous pouvez pas dans une équipe qui a une possession qui est au-dessus de 75%.
Vous pouvez pas me dire qu'il marque pas de buts. Il marque des buts. Il est à 7 buts. Il est à la moitié de son total de l'année dernière en Ligue 1. Donc je pense qu'on est un peu plus qu'à la mi-saison. Je pense qu'il va mettre entre 10 et 15 buts cette année en Ligue 1. Il va faire des passes D. Il va en faire 5 ou 6. Il en est déjà à 5. Donc moi, la vérité, c'est que en termes de stats purs en Ligue 1, c'est pas problématique parce qu'il joue et marque des buts. Non, mais après il rate. Même quand il marque,
il joue, parce que
les gars,
non, mais c'est vrai que c'est pas anodin qu'il joue pas ce soir.
Et c'est pour ça. Et c'est pour ça. Que là, et en fait, il faut juste regarder les matchs du PSG l'année dernière. Le PSG l'année dernière s'est transformé avec une équipe type. Comme toutes les grandes équipes, de toute façon, t'as une équipe type qui se dégage. Et dans cette équipe type, avec l'arrivée de Kvaratskhelia au mois de janvier, il a perdu sa place de titulaire. Il faisait que des rentrées en jeu. Alors moi, je veux bien qu'on me sorte les stats en Ligue des Champions. Il se crée des occasions, mais il marque pas. Et les stats, ça fait un an qu'il a pas marqué. Mais il y a pas de problème. Mais sauf
mois,
que attends, non, mais l'année dernière,
mois,
Steve, allez, l'année dernière sur
de
les,
cette saison, sur le, où tu le vois, tu sais, parce qu'il a joué et d'autres n'ont pas joué. Est-ce que tu peux me sortir vraiment un match où tu te dis, c'est lui.
Bah, au CR, c'est lui qui te fait gagner.
Mais en ligue. Non, mais les gars, ce joueur-là, et moi, je finis là-dessus, ce joueur-là, peut te faire gagner des matchs. Je trouve que dans la première partie de saison du PSG, je parle de cette année, en effet, où, très, très honnêtement, on s'est beaucoup embêté sur certains matchs, tu vois. Le PSG n'a pas été rayonnant comme l'année dernière. Franchement, les éclairs qu'il a pu avoir sur tes matchs, c'est parce que Bradley, il a une grosse activité. Et je trouve que là-dessus, il a vraiment progressé. Après, dans la zone de finition, et là, je finis là, c'est que dans la zone de finition, il a que 23 ans. Il peut trouver le calme. Moi, je me souviens d'avoir joué, j'ai eu la chance de jouer avec des grands attaquants, et peut-être le plus grand qu'il y avait dans la zone de finition comme ça pour finir les actions, et il avait quand même, par moment, avec sa vitesse, il ratait des choses, c'était Thierry Henry au début de sa carrière. Thierry, il a réussi à gagner, à avoir la lucidité.
Il a progressé, c'est ce que tu veux dire.
Oui, il s'est servi des plus grands. Allez. Et de trouver le temps de faire le bon dernier geste ou la bonne dernière passe. C'est vrai que pour l'instant, il se précipite, mais chaque chose en son temps. Et encore une fois, il n'a que 23 ans.
Jeff,
donc on peut encore progresser, et moi j'y crois.
Est-ce que tu donnes la victoire à Jérôme ou à Steve et Younes?
En fait, vous avez un peu tout dit. Si on part sur les stats, moi je suis d'accord avec Jérôme. Il est à la moitié des matchs réalisés par rapport à l'année dernière. Il est un peu moins élevé en passe D qu'en but. Les buts, je pense qu'il peut atteindre ce qu'il a fait l'année dernière. Passe D, c'est peut-être un peu plus chaud. Après, Sur la nonchalance, moi je suis pas trop d'accord parce qu'en fait ça fait partie de lui. C'est, je pense que c'est sa façon d'être. Il y a beaucoup de gens qui critiquent justement ça chez Barcola, mais comme on pourrait n'aurait pu critiquer Ibra et son caractère hautain. Voilà, chaque joueur a un peu sa personnalité. Lui c'est sa façon d'être. Il faut vivre avec. Si les gens qui apprécient pas ça, et ben ils regardent un autre joueur jouer. La finition, il a, comme vous l'avez dit, il a 23 ans. Rappelez-vous Dembélé avant qu'il arrive à Paris et qu'il plante à tout va à Barça, c'était.
Tu vas donner la victoire à Jérôme. Alors,
okay, il a pas beaucoup joué, ok, mais voilà, moi j'estime qu'on peut pas, lui jeter à la pierre. Gvara, pareil, lui prend sa place. Il a ce côté percutant, comme l'a dit Jérôme là, on a vu le match contre Marseille, ses appels ils sont tranchants. Voilà, il lui manque la finition, ça va venir. Dembélé on crachait sur sa finition et puis voilà, il nous a fait rêver derrière.
Donc victoire de Jérôme.
Merci Jeff, bravo.
Bon, comme je kiffe Paris et que j'ai vu jouer.
Mais c'est un procès vicié alors, merci. Incroyable. Merci Jeff.
Et c'est normal, on les a écrasés.
Et je salue Vincent Martinez sur le numéro WhatsApp qui nous dit en fait il faudrait un mélange des qualités de Barcola et de Steve Savidan, ce serait le joueur ultime. Merci.
Mais lequel, Steve, celui qui jouait
Le Goléador.
À Angoulême
Tous, celui de Valenciennes, celui de Caen, partout. Allez, dans un instant, l'avant-match de ce Rennes Paris Saint-Germain, on parle de la situation du Stade Rennais avec Pierre-Yves Leroux, avec David Filippo. Et il y aura le gagnant de la roue RMC. C'est le moment pour gagner 30 000 euros en cash sur RMC. À tout de suite.
Elle est belle, la roue.
RMC, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h49 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On continue les 10 dernières minutes de la première heure de Rotten sans flamme. Et après, on est en mode match en exclusivité, en direct. Rennes, Paris, Saint-Germain. On est avec Steve Savidan.
Yes.
On est avec Younes Belhanda et Benoît Boutron.
Il a réussi. Il a dit les trois noms correctement. Incroyable, ça y est.
Bravo, Jérôme. Mais j'ai fait exprès depuis tout à l'heure. Ah bon, vous êtes tombé dans le panneau.
Ok.
Franchement.
On l'a dit dans 10 minutes, coup d'envoi de Rennes, Paris Saint-Germain, le lancement de la 22e journée de Ligue 1. Et le rappel des compos avec Pierre Leroux. Deux Nantais, allez les voir si vous êtes au Roizen Park.
Ah ouais.
Deux Nantais infiltrés comme ça à Rennes. Allez-y, David.
On va démarrer par la compo du Stade Rennais. Samba à 4, 2-3-1. Samba dans la cage. Merlin, côté droit. Brassier, Rouault dans l'axe. Et Najida côté gauche. Rongier, Camara devant la défense. Simanski dans un poste de meneur de jeu. El Tamari sur le côté gauche. Nordin côté droit. Et Le Paul dans l'axe.
Et du côté de Paris, pas de grosses surprises, c'est la grosse équipe. Safonov dans les buts, préféré à Chevalier. Hakimi côté droit, Mendes côté gauche, la défense centrale avec Pacho et Zabarni devant cette défense. Vitinha, Neves, Zaïre Emery, Doué côté gauche, Kvaratskhelia côté droit et en pointe Dembélé qui a reçu les honneurs du Roizen Park tout à l'heure, évidemment formé ici du côté du Stade Rennais. Il a eu un cadre, il y a eu des photos et il a été applaudi par tout le stade pour le retour du Ballon d'Or.
Ousmane Dembélé lancé par le grand coach Courbis, à qui on pense fortement. Parlons de l'actualité rennaise. Pierre-Yves, avec la même situation qu'à Marseille, un entraîneur intérimaire, Sébastien Tambouré, qui sera sur le banc ce soir. Habib Bey a été débarqué officiellement lundi. Il y a des tractations compliquées et électriques en coulisses entre le club et Bey. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation, Pierre-Yves?
Les joueurs sont libérés.
On va voir ça au moment du coup d'envoi, mais ce qui est certain, effectivement, c'est qu'il y avait une certaine tension depuis quelques semaines, que la mise à pied donc d'Habib Bey a été effective lundi, que l'état-major du Stade Rennais fait corps. C'était le cas autour de Sébastien Tambouré lors de cette conférence de presse hier avec Guillaume Cerruti, avec Loïc Désiré, avec Arnaud Pouille, et que aujourd'hui, eh bien, on veut que la fin de contrat avec Habib Bey ait lieu, mais pas à n'importe quel prix, parce qu'on reproche des choses à Habib Bey. David, on reproche très concrètement deux points.
Ouais, effectivement, le Stade Rennais, enfin, en tout cas la direction veut plaider la faute grave ou lourde, avec deux choses qui pourraient, on va utiliser le conditionnel forcément, qui pourraient être reprochées à Habib Bey. D'abord, la première chose, d'avoir écarté Samba la semaine dernière, parce que, alors, il il avait eu un discours, je crois que c'était sur la chaîne de Bein Sport, il me semble, il avait dit je suis garant de l'institution, c'est pour cette raison que je l'écarte, ce qui veut dire, ce qui revient à une sanction disciplinaire, mais ça ne peut être pris que par la direction d'un club. Il n'avait pas l'aval de la direction pour pouvoir déclarer ça et mettre à l'écart un joueur. Et l'autre fait, c'est une altercation qui aurait eu lieu avec un membre du staff. Voilà les deux raisons pour lesquelles Habib Bey, en tout cas le club, veut s'appuyer là-dessus.
Et puis ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'il y a un homme qui est en attente, c'est Franck Hez, voilà, pour venir s'asseoir sur le banc du Stade Rennais.
Pour confirmer un peu tes propos, ça a été très chaud, en effet, avec des membres du staff. Et il y en a qu'on le sent chaud aussi, donc ça a été très très tendu.
On n'était pas loin de la limite, quoi.
Ouais. Bah, de toute façon, mais il n'y a pas une banderole là
sur lui.
Non.
Une année de plus à se faire chier. Bay, les grands discours.
Ça
vous donne le ton et on va suivre sur Rennes Paris Saint-Germain en direct à l'intégralité dès 19h sur RMC. Mais tout de suite, c'est l'heure de la roue RMC.
Elle est où la roue? Elle est où? Elle est là.
Elle est derrière toi. Et c'est Sébastien qui aura la chance de la faire tourner. Salut Sébastien.
Salut.
Salut Seb.
Sois le bienvenu.
Quelle chance.
Ah ouais.
Quelle chance.
T'es le dernier
13.
Gagnant de cette roue RMC. Donc c'est toi qui vas la faire tourner pour la dernière fois. D'ores et déjà, tu as gagné 1000 euros. Donc félicitations à toi, Sébastien. Et donc la roue va pouvoir te permettre de multiplier cette somme soit par 2, soit par 3, soit par 13, soit par la case dilemme. La case dilemme qui pourra te permettre de faire une multiplication par 4 ou de rejouer. Voir la case mystère, et c'est cette fameuse case mystère qui peut te permettre de remporter jusqu'à 30 000 euros avec un ballon qui sera éclaté par Jérôme Rotten. Est-ce qu'on y va, Sébastien? Est-ce qu'on fait tourner la roue RMC? T'es prêt?
Allez, je suis prêt.
Allez, tu peux donner le top à Jérôme, vas-y.
Allez, top.
C'est impressionnant. Comme la roue tienne, en fait. Jérôme, je te laisse.
Oh, c'est incroyable.
Dis-lui ce qui vient de se passer.
Ah, écoute, déjà, tu as gagné 2000 euros.
Ah, félicitations.
Donc, félicitations, Sébastien.
Mais dis-lui ce qui s'est passé.
Mais je vais te dire, la roue, elle s'est arrêtée pile. Elle a tordu juste sur la case mystère. Voilà, on était à deux doigts.
À deux doigts de viser la case mystère et potentiellement les 30 000 euros. Ah, bah voilà, le ballon a été éclaté pour Jérôme. Il veut voir ce qu'il y avait dedans.
Ah, je veux juste voir juste que t'es.
Mais Sébastien, la bonne nouvelle, c'est que tu remportes 2000 euros. Donc, félicitations à toi quand même.
C'est fantastique.
Et bravo à toi. Et je suis pas sûr qu'on dise.
Et dans la case mystère, je vais te dire oui, parce que s'il y avait eu 30 000, je te l'aurais pas dit. Il y avait quand même 5 000 euros.
Ah,
ouais. Voilà. Donc, bon, écoute, 2 000, c'est déjà bien. Bravo. En
magnifique
tout cas,
c'est très bien. C'est très, très bien.
C'est magnifique. Ça va faire du bien. Et bah, profites-en. Fais des beaux cadeaux à ta famille. Et puis, à bientôt. On continue d'écouter RMC.
Bravo, Sébastien. Félicitations.
Bravo, Sébastien.
Et bonne soirée. Un grand merci à Steve Savidan et Younes Belanda qui étaient avec nous ce soir. Merci, les gars. C'était un plaisir de passer cette heure avec vous.
Toujours la semaine prochaine. Payé à moitié aujourd'hui.
Et dans un instant, le Rennes Paris Saint-Germain en intégralité dans Rotten sans flamme sur RMC, le début de la 22e journée de Ligue 1. A tout de suite sur RMC.
RMC, Rotten sans flamme. Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.